Le magazine Faminade, VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nathalie Barge pour vous présenter le magazine au féminin que vous pouvez également écouter en différé sur notre site internet voaafrique.com. Si tous les bébés étaient alimentés avec rien d'autre que du lait maternel à partir de l'instant où ils naissent jusqu'à l'âge de 6 mois, plus de 800 000 vies seraient sauvées chaque année, a déclaré l'UNICEF à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, soulignant qu'au cours des 15 dernières années, les taux d'allaitement précoce et exclusif n'ont pas augmenté en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Pour avoir une idée de la situation en Guinée, j'ai joint le docteur Matouré de l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant à Conakry.
Il y a pas mal d'enfants qui ne sont pas mis au sein dès après la naissance, bien qu'il y a pas mal d'interventions qui sont mises en place pour éradiquer ce fléau, sachant que la mise au sein précoce en elle seule peut réduire de 13% la mortalité chez ces enfants.
Pourquoi certains enfants, justement, n'ont pas accès au lait maternel après la naissance?
Il y a un manque de sensibilisation de la maman, certifiant que bien qu'il soit dans le milieu du travail, c'est-à-dire que la vie professionnelle peut bel et bien aller avec l'allaitement maternel. Sur le plan de nos cultures aussi, il y a des mamans qui sont confrontées avec l'avis des beaux-parents de la belle-famille qui disent que non, dans notre coutume, après la naissance, un tel enfant doit d'abord bénéficier d'autres liquides que le lait maternel.
Mais ça, ce sont des conseils à ne pas suivre du tout, en fait, c'est cela, hein?
C'est ça, je dis, j'ai commencé par cette manque de sensibilisation. C'est des conseils qu'il ne faut pas du tout suivre pour le bien-être de ces nouveau-nés.
On pensait plutôt que la culture africaine était pro-allaitement maternel.
Au fait, c'est des exemples que j'arrive à avancer qui entravent la première tétée du nouveau-né. Ce n'est pas l'allaitement maternel qui est entravé, mais c'est cette première tétée. La femme, quand elle accouche, il y a d'autres cultures, d'autres familles qui disent, nous, chez nous, il faut lui donner de l'eau, du lait de coco avant le lait maternel.
Vous, vous expliquez justement que c'est même plutôt dangereux de donner de l'eau à un bébé juste après sa naissance.
Juste ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est des choses que nous sommes confrontés, mais on se bat à éradiquer ce fléau parce que l'allaitement maternel exclusif interdit tout autre liquide des heures qui suivent la naissance jusqu'à 6 mois. Une femme qui n'arrive pas à accoucher dans une structure sanitaire ou qui n'arrive pas à bénéficier d'un accouchement assisté, à la maison, elle est confrontée à ces choses avant qu'il ne soit avec nous.
Est-ce que vous avez affaire également à des cas, par exemple, de mamans qui sont mal nourries et qui ne pourraient pas éventuellement donner leur lait à leurs enfants?
Il reste prouvé qu'une bonne alimentation de la maman pendant la grossesse prépare cette bonne nourriture de l'enfant à la naissance. Il y a des mamans qui ont ces problèmes nutritionnels, mais une fois prise en charge, je pense que le problème est résolu.
Est-ce que dans votre service, justement, vous prenez en charge des nourrissons qui n'ont pas du tout accès au lait maternel? Et comment procédez-vous alors?
Des enfants qui n'ont pas accès au lait maternel, c'est des enfants qui sont, par exemple, dans les contextes très précis. Le choix de la maman lorsque c'est un terrain de VIH, par exemple, qui a décidé de faire l'allaitement artificiel, bien qu'elle peut bien faire l'allaitement maternel. Ou une maman qui est sous des médicaments, des neuroleptiques, par exemple. Pour ces deux situations que j'ai citées, on arrive à prendre ses nourrissons et pouvoir sensibiliser la maman sur l'utilisation de cette alimentation artificielle.
Est-ce que vous avez un système de banque de lait maternel, justement, pour des nourrissons qui n'auraient pas accès au lait maternel?
En fait, mon service ne dispose pas de banque de lait maternel. Vous savez, par exemple, avec les conditions de conservation du lait, on est un peu limité. Mais par contre, individuellement, on encourage des mamans à faire des expressions ou des banques journalières. Ça, c'est juste à titre individuel. Il reste et demeure que l'allaitement maternel, c'est la première richesse qu'on peut offrir à son bébé. C'est ce premier médicament qui peut l'offrir sans prix, sans condition, disponible à tout le temps, qui doit être un problème de tous parce que ça nous permet de prévenir toute autre maladie auquel l'enfant est confronté pendant ses premiers 6 mois, nous permettant ainsi de veiller à sa bonne croissance. Donc, nous devons continuer à cette sensibilisation par rapport au lait maternel.
C'était le docteur Matouré de l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant à Conakry. Merci beaucoup, Viviane Van Stertengem, d'accepter donc cet entretien téléphonique avec VOA Afrique. Vous êtes représentante résidente de l'UNICEF au Niger. Et chaque année, l'UNICEF donc sensibilise notamment sur l'importance de l'allaitement maternel dès après la naissance. Alors, pourriez-vous nous dresser un plan, s'il vous plaît, de la situation au Niger ?
Au Niger, 99% des enfants sont allaités au sein, mais le problème, seulement 23% d'entre eux le sont de manière exclusive. Et quand on dit de manière exclusive, cela veut dire que normalement un enfant de 0 à 5 mois révolus ne devrait recevoir que le lait maternel. Donc même s'il fait terriblement chaud, cet enfant ne doit pas recevoir de l'eau. Le lait maternel a la capacité à la fois de répondre aux besoins nutritionnels de l'enfant et de lui donner une impression de satiété, mais aussi répondre à sa soif. Donc il n'est pas nécessaire de donner de l'eau à l'enfant en supplément au lait maternel. Et même dans les situations, surtout du Niger rural, il est extrêmement dangereux de donner de l'eau à l'enfant parce que cette eau, premièrement, peut être d'une source qui n'est pas une source d'eau potable, ou ensuite elle peut avoir été conservée dans un récipient qui n'est pas nécessairement à 100% propre, et donc elle peut causer des diarrhées. Et ces intervalles de diarrhée, en fait, sont chaque fois des petites étapes vers une malnutrition. Et le non-respect de l'allaitement exclusif est une des raisons qui explique le gros problème de malnutrition chronique et même de malnutrition sévère et aiguë que connaît le Niger. Par an, on traite entre 6 000 et 8 000 enfants entre 0 et 6 mois, et ces enfants sont traités pour malnutrition sévère, et très souvent, presque exclusivement, c'est parce qu'ils ont reçu d'autres aliments, et surtout de l'eau, en plus du lait maternel, et que ça les a entraînés dans un cycle de diarrhée et d'autres maladies infectieuses.
J'ai discuté précédemment avec un médecin guinéen qui a parlé notamment de culture où tout de suite après la naissance, on ne donne pas le lait maternel, on donne de l'eau ou du lait de coco. Est-ce que vous rencontrez ce type de problème également ?
Oui, disons qu'il y a encore une petite méfiance envers le premier lait, donc le colostrum. Certaines familles se méfient de ce premier lait. Elles demandent à la maman de tirer ce premier lait et elles donnent autre chose à l'enfant. Alors c'est très souvent une décoction. Néanmoins, cette pratique-là, elle a plutôt tendance à diminuer car il y a d'énormes efforts de sensibilisation en cours. Par contre, là où il y a résistance, c'est vis-à-vis de l'eau, de l'absorption d'eau en plus du lait. On se trouve dans des situations où la température peut facilement monter à 45 degrés. La maman elle-même ressent la soif et elle imagine que son enfant doit la ressentir aussi. Le réflexe devrait être de mettre l'enfant au sein, mais elle lui propose de l'eau à boire. Là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire.
On parle très souvent justement des pays où effectivement la mère elle-même a du mal parfois à se nourrir. Comment se fait-il finalement que cette chance, on va dire, c'est le fait de pouvoir nourrir un enfant exclusivement au lait pendant 6 mois, ne soit même pas utilisée en fait ? Parce que ça évite notamment d'acheter d'autres aliments.
Bon, évidemment, on souhaite tous que les mères soient bien nutries et en bonne santé. Et dans ce cas-là, évidemment, la mère d'aucune manière ne souffre de produire ce lait maternel pour son enfant. Mais même quand la mère est elle-même malnutrie, c'est dans ses ressources à elle qu'elle puise pour fournir ce lait maternel à l'enfant. Et c'est dans des cas vraiment très extrêmes que la maman ne sera pas en mesure de produire ce lait maternel. Sinon, une malnutrition modérée, comme on en trouve quand même relativement souvent, chez les mamans au Niger, ne va pas nuire à l'allaitement maternel. Par contre, cette malnutrition va nuire à l'état de santé et à l'état nutritionnel, bien entendu, de la mère elle-même. Je pense vraiment que c'est plutôt d'ordre presque psychologique. La mère sent la soif à cause de la température et elle imagine que son enfant doit le ressentir de la même manière qu'elle et donc elle lui offre de l'eau.
Visiblement, cette question de l'eau, c'est le gros problème que vous rencontrez. Vous avez du mal à faire entendre qu'il ne faut pas donner de l'eau à un nourrisson très petit. C'est ça, en fait.
C'est ça, on a du mal à faire comprendre qu'en fait, le lait tel qu'il est constitué, il y a diverses phases. Le premier lait est plus liquide, est moins riche. Ça permettra à l'enfant d'épancher sa soif. Et ensuite, pendant qu'il est au sein, le lait devient plus riche. Quand vous préparez un substitut de lait maternel, le produit que vous avez préparé, il est homogène. Le lait maternel, durant un repas, durant une tétée, il se modifie.
Ouais.
Ce n'est pas un produit homogène durant une tétée.
Et d'où l'importance donc d'allaiter à partir de la naissance jusqu'à au moins 6 mois. Merci beaucoup Viviane Van Stertengem, représentante résidente de l'UNICEF au Niger. À très bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
Un nouveau-né sur deux dans le monde n'est pas mis au sein dans la première heure de sa vie, selon les statistiques de l'UNICEF, rappelant que le lait maternel est le premier vaccin d'un bébé. Je vous propose à présent d'écouter Annette Zawa, sage-femme à Bangui, en Centrafrique.
En Centrafrique, nous faisons la promotion de l'allaitement maternel, parce que l'allaitement maternel, c'est l'alimentation idéale pour le bébé jusqu'à l'âge de 6 mois. Et l'allaitement maternel favorise le développement des anticorps de l'enfant et favorise un échange entre la maman et l'enfant et préserve la santé de l'enfant. Il n'y a pas des mamans qui sont réticentes pour alimenter leur bébé. Pourquoi ? Parce que nous faisons partie des pays moins avancés et le coût de lait artificiel là, ça coûte trop cher et nos mamans n'arrivent même pas à payer ces gens pour se nourrir. Il y a une difficulté qui est là, elles n'ont pas le moyen pour payer le lait.
Est-ce que vous avez des cas, est-ce que vous-même vous connaissez en particulier des cas de mamans qui seraient infectées par le VIH-Sida et qui auraient besoin notamment de conseils pour l'allaitement ?
Nous rencontrons beaucoup ces cas, mais nous conseillons à ces mamans-là de donner le sein. Pourquoi ? Parce que une fois que la femme est dépistée, elle est automatiquement mise sous ARV.
Mmh.
Et les ARV agissent dans le corps de la femme et protège l'enfant contre le virus, c'est-à-dire la mère fait une alimentation maternelle protégée. Donc, comme elle prend les ARV, elle a la chance de ne pas contaminer son enfant. Donc, ici, en Centrafrique, les femmes infectées donnent seulement le lait maternel.
Est-ce que vous avez des cas également de mamans qui auraient elles-mêmes des problèmes de malnutrition et qui, à ce moment-là, auraient peut-être des difficultés justement à allaiter leur nourrisson après la naissance ?
On a des cas de mamans malnutries et ces mamans-là, on les prend en charge. Mais si vous voyez dans notre pays, si vous prenez 10 femmes, peut-être qu'il y a une femme qui va opter pour l'alimentation artificielle. Et les conditions de préparation du lait-là, ça pose problème. Plus des cas, les enfants qui sont sous allaitement artificiel ne meurent pas de maladie, mais meurent de cause des préparations de ces laits artificiels.
Mmh. Madame Panika, vous êtes sage-femme. Pourriez-vous nous dire quel type de difficultés vous rencontrez pour exercer correctement votre travail ?
Bon, les difficultés qu'on rencontre, je vous ai dit au départ qu'il y a moins de sages-femmes et une sage-femme sur le terrain fait plusieurs activités, ce qui fait que parfois on est débordé et le travail parfois n'est pas correctement vraiment fait. Donc le problème ici en République africaine, c'est d'augmenter le nombre de sages-femmes dans la faculté des sciences. Et la sage-femme aussi, quand nous sommes à la maison, on est encore sollicité. Parce que quand tu reviens à la maison, on t'appelle dans le quartier pour faire des accouchements que toi-même, tu ne t'attendais pas. Donc, l'État nous utilise et la population, la communauté aussi nous utilise. Donc, la nuit, à tout moment, on est sollicité.
Donc, vous ne vous reposez pas beaucoup ?
Pas beaucoup, parce que quand tu es dans la communauté, chaque nuit, là, il y a des gens qui viennent cogner à ta porte pour faire un accouchement, pour prescrire des médicaments ou pour consulter un bébé gratuitement.
Et vous êtes combien de sages-femmes dans l'association ?
Dans l'association, nous comptons, je crois, 280 et quelques sages-femmes.
Mmh, d'accord. Et vous savez à peu près combien de sages-femmes il y a sur le territoire de la Centrafrique ?
C'est ça le nombre que je vous dis, là, les 280. Là.
Vous êtes 280 en tout ?
Il n'y a rien que 280, oui.
Oula. Oui, en effet.
Il y a des prestations qui ne sont pas encore couvertes par les sages-femmes. On avait fait la proposition, le gouvernement est prêt à augmenter le nombre de sages-femmes dans les formations.
Est-ce que les formations de nouvelles sages-femmes ont déjà commencé?
Oui, en octobre, on a déjà recruté les nouvelles sages-femmes. Elles sont en formation maintenant en première année. Et on forme seulement 20 à 30 sages-femmes.
C'est pas énorme. Vous dites qu'il y en a à peu près une vingtaine de plus par an, c'est ça?
Oui, une vingtaine de plus par an.
280 sages-femmes en Centrafrique, c'est bien ça?
Oui.
Merci beaucoup Odette Paniquin, vice-présidente de l'association des sages-femmes et des infirmiers accoucheurs de Centrafrique. Bon courage et à très bientôt.
Merci beaucoup, merci à vous aussi.
Découveuse pour nos anges, tel est le nom donné à la campagne lancée par deux jeunes Burkinabés conscients de l'insuffisance de couveuses dans les hôpitaux de Ouagadougou. Zoumana Wonogo, notre correspondant au Burkina Faso, leur a tendu le micro.
C'est pratiquement avec les larmes aux yeux que Mme Raissa Compaoré est revenue sur le jour où elle a été interpellée par une famille qui venait d'avoir des bébés prématurés.
Nous sommes allés à la recherche des couveuses dans toute la ville de Ouagadougou, les grands hôpitaux, dans les cliniques, les plus grandes cliniques, les plus petites cliniques. Nous avons fait le tour, il n'y avait pas de couveuses. À l'hôpital Yalgadougou, qui est le plus grand centre de santé urbain au Burkina Faso, il n'y a que deux couveuses. Arrivé même dans la salle même où étaient internés les bébés, il y avait 5 bébés dans une seule chambre. Une petite chambre comme ça, avec un ventilo, il n'y a que 4 couveuses à l'hôpital Blaise Compaoré, l'un aussi des plus grands hôpitaux du Burkina. Nous n'avons pu avoir des couveuses que le lendemain. Donc 34 heures d'attente, ce qui n'a pas été facile pour des bébés qui étaient déjà en difficulté respiratoire. Malheureusement, ce qui a suivi, les deux jumelles sont mortes le lendemain.
Face à cette situation, une campagne est lancée pour achat de couveuses à l'intraoré, à l'Inofaso. Co-initiateur de la campagne fait le point des contributions.
Nous sommes pratiquement à 2 500 000 au jour d'aujourd'hui en termes de contributions des uns et des autres. Et c'est clair que ça paye une couveuse, mais nous en voulons 6. Donc il faut encore redoubler d'efforts pour que nous ayons les 5 autres couveuses. Et c'est pour cela que nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, aux opérateurs économiques, à tous les fils de ce pays-là.
Malgré la noblesse de cette campagne, il y en a qui estiment que c'est à l'État d'acheter les couveuses pour les centres de santé. En réponse, voici ce qu'en dit Alain Traoré à l'Inofaso.
L'État, ce n'est pas simplement le président Rochma Christian Kaboré, ce n'est pas son premier ministre, ce n'est pas les députés, ce n'est pas les maires. Donc il faut que nous mettons une chose en tête. Il est temps éventuellement, très souvent, de se demander « qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays ?» au lieu de se dire tout le temps « qu'est-ce que mon pays a fait pour moi ?» Donc aujourd'hui, c'est une action citoyenne qui va permettre d'avoir 6 couveuses. Ce n'est certes pas énorme 6 couveuses, mais je peux vous dire que pour les différents témoignages que nous recevons des parents qui ont perdu des enfants, j'en suis également victime, je peux vous dire que c'est extrêmement douloureux.
Sur ce point, apport de l'État, Mme Raissa Compaoré a dit ceci.
Il faut que nous prenions ce problème-là à bras le corps. Il ne faut plus qu'un bébé meure parce qu'il n'a pas eu de couveuse. Le peuple américain, le peuple français, le peuple italien, ils ont cotisé, ils ont construit des routes pour nous. Ils ont cotisé, ils ont équipé nos hôpitaux, et même des écoles. Pourquoi nous, on ne peut pas cotiser aussi pour nous aider? Pourquoi on ne peut pas le faire? C'est vrai que nous sommes pauvres, mais vous savez que la solidarité est l'un des caractères même de l'Africain. Mais quand il s'agit d'un organe de l'État, on trouve toujours que non, c'est à l'État de faire.
La campagne, dit-on, va continuer jusqu'à l'obtention des 15 millions de francs CFA qui vont permettre d'acheter les 6 couveuses. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Entre parenthèses.
Comme il l'avait promis à une assemblée de religieuses, le pape François a mis en place une commission d'études spéciale sur le rôle des femmes dans les premiers temps du christianisme. De nos jours, aucune femme ne peut être diacre et encore moins prêtre. Pour en savoir plus, Jacques Aristide a joint Albert Mianzoukouta de Radio Vatican.
C'est un groupe qui est appelé à réfléchir sur le rôle des femmes dans les premiers temps du christianisme. Donc c'est essayer de voir comment cela se passait Et donc de là, on peut déduire que les conclusions de cette commission sont appelées à être disséquées, tamisées et voir de quelle manière elles peuvent être rendues compatibles avec l'évolution de l'Église et de la société aujourd'hui. Alors voilà, de cela peut sortir une chose, ce serait qu'effectivement on aille au degré supérieur en disant voilà, les femmes peuvent être diaconesses, sinon garder le statu quo en disant bon, après tout, il n'y a pas de grand dommage à faire évoluer cette situation, mais ça c'est le pape qui déciderait et c'est la commission qui le proposerait.
L'Église catholique, d'ailleurs, s'oppose toujours à l'ordination de femmes prêtres. Donc, ce qui fait que cette commission va-t-elle vraiment pouvoir recommander un début de changement, soit l'éventuel diaconat des femmes ?
Déjà, sa composition laisse à penser que finalement, il y aura certainement en son sein un débat contradictoire. Vous savez, elle se compose de 13 membres. Elle est guidée par un jésuite espagnol. Mais là-dedans, il y a 6 femmes et 6 hommes, plus donc celui qui le dirige, qui la préside. Je suppose qu'on ne peut pas réunir une commission pour après aboutir à la conclusion que, eh bien, finalement, tout va bien comme c'est, il n'y a rien à changer. Voilà.
Un prêtre rwandais fait également partie de la commission. L'Église catholique en Afrique est-elle divisée sur la question, d'après vous ?
Non, je ne pense pas qu'il n'y a pas eu de position claire et ferme sur ce point de vue. Vous savez, l'Afrique, il y a des thèmes sur lesquels elle est farouchement arc-boutée, hein, tels par exemple les thèmes de la famille, de la reconnaissance des unions homosexuelles, etc. Mais ici, pour l'ordination des femmes, cela ne pose pas de problème particulier, ni à l'entendement, ni même à la pratique d'ailleurs, à la pratique de l'Église. Dans les paroisses aujourd'hui, les femmes peuvent aussi bien distribuer la communion que les hommes, sans être les femmes, les religieuses par exemple, mais aussi les laïcs. Et donc je suppose que l'Afrique n'y verrait que du bien.
Albert Mianzoukouta de Radio Vatican était joint à Rome.
Parole de femme.
Pour subvenir aux besoins de la famille, plusieurs femmes au foyer en RDC se sont lancées dans le commerce informel. Notre correspondant Charlie Kazereka les a suivies dans leur petit marché à Goma.
Elles sont les piliers de leur foyer. Certaines sont veuves ou abandonnées par leurs époux depuis plusieurs années. C'est le cas de Mangaza Omar, vendeuse de tomates, 10 ans aujourd'hui qu'elle vit seule avec ses 4 enfants.
J'ai 4 enfants et j'ai débuté mon petit commerce avec comme capital de 20 dollars. Aujourd'hui, ce n'est plus la même somme, j'ai chuté. Pour payer les études à mes enfants, je dois m'associer avec d'autres vendeuses comme moi dans une ristourne. Mon époux m'a quitté et j'ai le devoir de prendre soin de mes enfants.
Pour écouler leurs marchandises, elles se sont créées des petits marchés informels sur presque chaque avenue de la ville. Nambula Kasusanya, la 60aine vendeuse de pommes de terre et de choux, elle a traîné toutes ses 3 filles dans ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle nous explique ici la raison.
Toutes ces femmes ici sont mes enfants. Je les ai apprises ce métier pour qu'elles épaulent aussi leurs époux qui n'ont pas aussi d'emploi.
Pour se procurer de la marchandise moins chère et bénéficier plus, la majorité d'entre elles traversent chaque matin la frontière rwando-congolaise. Elles se disent moins intéressées par des tensions politiques que vivent ces deux pays depuis plus d'une décennie maintenant. Pour elles, c'est la survie de leur foyer. À la frontière, il faut être trop matinal pour traverser et revenir trop vite. Dans un embouteillage des services de perception des taxes et des policiers, les tricycles des handicapés physiques font des va-et-vient toute la journée dans les deux sens de la frontière en faisant traverser les marchandises. Faciliter l'accès à des crédits dans des microfinances, c'est la lutte que mène Justine Massika, activiste des droits de la femme dans la région, avec son organisation Synergie des femmes.
Et avec la guerre, il n'y a pas assez d'emplois. Donc, il faut que les femmes puissent aussi contribuer. Pour qu'elles puissent faire face à tous ces problèmes, il faut qu'elles soient dans des associations. Puisque lorsqu'elles sont dans des associations, elles peuvent accéder facilement à des crédits. Et l'autre chose que nous faisons, c'est de pouvoir aller auprès des autorités pour demander qu'ils puissent avoir des exonérations pour certaines taxes. Mais ce n'est pas facile avec notre gouvernement qui veut aussi maximiser les recettes.
Et aujourd'hui, plus de 80% de la population active en RDC est au chômage et les peu qui travaillent ont un salaire insignifiant pour nouer les deux bouts du mois. Sur ce, les femmes ménagères ont pris les relais dans les commerces informels et elles s'en sortent jusqu'à présent tant bien que mal. Charlie Kasereka, depuis Goma pour VOA Afrique.
Arrête!
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes.